Je suis en compagnie de Philippe Pignard. Merci beaucoup de me recevoir à La Découverte. Nous parlons de ce livre que vous avez écrit, La Tour Stengers, un double vol enchevêtré aux empêcheurs de penser en rond, dont vous êtes le directeur. Sur la manière dont vous avez conçu ce livre, Philippe Pignard, vous l'expliquez clairement en introduction, c'est un texte à trois voix. Vous écrivez « J'ai conçu ce texte comme une sorte de patchwork composé de nombreuses citations. J'ai voulu que le lecteur soit touché par leur manière même de s'exprimer. »
Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas quelque part c'est une position très modeste aussi par rapport à ces deux auteurs. C'est-à-dire que je voulais qu'on entende leur voix au cours des échanges qu'ils ont pu avoir sur 35 ou 40 ans. Mais je ne veux pas trop rajouter la mienne. Il ne s'agit pas d'une œuvre d'un philosophe qui essaierait de prolonger le travail philosophique de deux autres philosophes. C'est plus modeste que ça. C'est d'essayer de profiter des moments où les deux se sont rencontrés, souvent pour rebondir l'un sur l'autre, souvent pour dire « Ah, cette idée-là, cette proposition-là m'intéresse et voilà ce que je pourrais en faire. » Ou pour dire « Ah, voilà ce qui est proposé et voilà comment il faut le comprendre. » Parce que ce n'était pas forcément quand un philosophe comme Bruno Latour ou Isabelle Stengers fait une proposition, elle est souvent au départ encore un peu tâtonnante et hésitante. Et donc souvent, parfois, elle mérite de nouveaux développements, de nouvelles explicitations qui viendront après. Souvent, ou qui viendront de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'est vrai que Isabelle Stengers reprend souvent des propositions de Bruno Latour, et inversement, en disant voilà comment on peut les comprendre, voilà ce que moi j'en ferais, voilà comment je la transformerais.
Donc, trois voix, la vôtre, leur éditeur commun, et il faut insister là-dessus, rien que le nom, les empêcheurs de penser en rond, j'ai cru comprendre que ça avait été trouvé ce titre avec Isabelle Stengers, c'est vous. Et donc le fait que vous soyez leurs éditeurs communs, vous avez tout vu. C'était vous qui étiez à la meilleure place de leur relation à tous les deux. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre. Alors qu'on s'entende bien, c'est pas un livre où on va trouver des anecdotes sur leur très longue amitié qui court depuis la fin des années 70. C'est véritablement un livre de pensée où vous mêlez l'un à l'autre et la manière dont tous les deux, effectivement, se sont influencés. Donc, nous avons véritablement affaire à un livre qui va permettre de mieux comprendre chronologiquement, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est cette chronologie de la pensée de Bruno Latour et de la pensée d'Isabelle Stengers avec leur mutuelle influence. Donc, c'est ces trois voix parce que vous écrivez que leurs œuvres, à tous les deux, ont changé au plus profond votre manière d'être au monde. Et donc ça, c'est pas rien. Et effectivement, vous n'êtes pas le seul à qui leur œuvre a produit ce phénomène de changer nos manières d'être, notre manière d'être au monde. Si bien que l'ambition est de, écrivez-vous, suivre l'œuvre de Latour en la confrontant régulièrement aux propositions de Stengers, laquelle va souvent se saisir très vite des propositions de Latour, mais sans jamais les laisser intactes. Elle va plutôt, écrivez-vous, leur faire subir une torsion que l'on pourrait qualifier de politique. Et peut-être là, il y a la lutte entre les deux, une lutte bien entendu amicale, mais néanmoins une sorte de lutte qu'on pourrait avoir entre les deux, peut-être l'un refusant cette caractéristique politique et l'autre voulant l'y entraîner.
Oui, cette question politique est intéressante. Parce que, mais c'est un point commun entre les deux auteurs. Ils ont démarré tous les deux leur travail de penseur de manière assez éloignée de la politique, au moins en apparence. Et aussi bien Isabelle Stengers, quand on l'interroge, et bien sûr Bruno Latour aussi, finalement les deux sont venus à faire des propositions politiques très tardivement. Et finalement, Isabelle Stengers dit souvent que elle n'a pas été très saisie en mai 68, par exemple. C'est un peu passé à côté d'elle, enfin, c'est peut-être beaucoup dire, mais ça n'a pas été quelque chose dont elle était activement partie prenante. Et au fil du temps, à partir de la manière dont elle a travaillé, d'abord sur les questions des sciences, puis qui a été quelque chose de très important, qui continue à être très important dans son travail, puis après, en tant que philosophe, en tant que telle, sur toutes les questions, elle est amenée à se prendre des positions de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, et qui ont intéressé de plus en plus de gens qui sont des activistes sur les terrains des luttes sociales, des luttes antiracistes, des luttes contre le réchauffement climatique, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire, j'aime pas trop la formule, mais qu'elle s'est radicalisée au fil du temps. Et Bruno, c'est pareil. Bruno démarre son travail par une thèse qui n'a pas été publiée, mais qui est une thèse intéressante où il s'intéresse à Charles Péguy et à Saint John Perse. Et il essaye de voir ce qui, dans leur style d'écriture, Bruno beaucoup s'intéressait toujours à cette question du style d'écriture, parce qu'il va nous apprendre sur ce que l'auteur veut dire. Et Latour va donc démarrer son travail en s'intéressant à ce qu'il appelle le caractère répétitif qu'on trouve dans les écrits de Péguy, et il va dire que ce n'est pas du tout un défaut, ce n'est pas du tout quelque chose qui reflèterait une faiblesse de Péguy, mais il n'y avait pas d'autre manière de parler de ce dont veut parler Péguy, de ce que Péguy veut faire saisir à ceux qui le lisent, que de ce caractère répétitif où les phrases se suivent, se répètent en partie, reprennent la partie suivante de la phrase et se développent comme ça, comme si on voyait en gros, c'était son cerveau qu'on voyait fonctionner sur sa page. Et Bruno donc commence par s'intéresser à la manière dont Péguy parle et de la manière dont Péguy écrit, et très vite il va le dire, cette méthode là on va la retrouver à la fin dans les dernières années de son œuvre, là dans ses dernières œuvres, entre autres avec son enquête sur les modes d'existence qui reprendra cette question de ce qu'est la parole religieuse, qui est un des chapitres de l'enquête sur les modes d'existence, qui est un mode d'existence particulier, mais aussi sur la façon dont les sciences se font, par exemple, ou sur la manière dont d'autres, les fictions se font, enfin, etc. Chaque mode d'existence ayant un mode particulier d'énonciation. Donc il s'intéressait à l'énonciation. Mais on pourrait penser que Bruno Latour est alors très loin de la politique. Et puis, au fil du temps, lui aussi, comme le bon vin s'améliore au fil du temps, et Bruno aime rappeler qu'il est issu de Bourgogne et qu'il est d'une famille de gens qui font du vin, de négociants en vin, les Latour, eh bien Bruno va être de plus en plus partie prenante des batailles politiques, et il va aujourd'hui essayer, dans ses quatre derniers livres, à savoir depuis Face à Gaïa, mais aussi dans Où atterrir, puis Où suis-je, et dans son prochain livre qui devrait sortir début janvier, qui s'appelle Mémo sur la nouvelle classe écologique, Bruno Latour va s'intéresser de plus en plus à penser comment rendre compte du monde dans lequel nous vivons au moment où tout s'était échangé par le nouveau régime climatique, et comment on doit s'activer autour de cette question. C'est-à-dire comment on doit pas simplement faire de la philosophie, mais être partie prenante dans les luttes qui sont engagées, dans les controverses qui sont engagées. Et donc Latour, lui aussi, finalement, devient quelque part un activiste politique. Mais comme Isabelle, ça a été très long pour qu'ils deviennent tous les deux des activistes politiques. Donc la politique occupe une place importante de manière claire en fin de parcours. On pouvait penser qu'elle existait déjà, mais c'était beaucoup moins évident et beaucoup moins clair en début de parcours, mais elle est vraiment très claire en fin de parcours. Maintenant, les œuvres de Latour ou les œuvres de Stengers jouent un rôle important pour tous ceux, entre autres, qui se battent sur les questions climatiques.
Alors, dans leur histoire commune, vous repérez les difficultés de votre entreprise à écrire ce livre-là, Philippe Pignard, qu'il y a déjà une différence de style entre les deux. Le fait qu'ils n'écrivent pas spécialement l'un pour l'autre et qu'ils ne font pas de la politique de la même manière, du moins un long moment ils n'en ont pas fait, et ils se sont rejoints, effectivement, comme vous venez de l'expliquer très très bien, ils se rejoignent finalement à la fin. Sans doute qu'Isabelle Stengers a fait un usage du mot capitalisme beaucoup plus tôt que Bruno Latour, qui n'a jamais voulu utiliser le terme capitaliste et qui ne l'utilise vraiment que en filigrane, véritablement, que depuis récemment. Et donc ce terme de capitalisme pourrait être un peu le terme de la discorde, peut-être entre les deux. Donc en fait, on pourrait se dire, une fois que vous avez repéré ces trois difficultés essentielles de leur possibilité d'écrire une histoire commune sur ces deux-là, on se dirait que tout tiendrait à leur amitié. D'autant plus qu'il faut bien savoir qu'ils n'ont écrit qu'un seul texte ensemble, même pas un livre, c'est une introduction à la réédition des modes d'existence d'Étienne Souriau. Il n'y a que ce texte-là qu'ils ont écrit véritablement ensemble. Alors, ça pourrait nous faire penser, bien entendu, quand on pense à Deleuze et à Guattari, à l'histoire commune de Deleuze et Guattari, mais qui sont très 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 différents. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière d'avoir une amitié, une influence mutuelle en philosophie, en considérant que Isabelle Sengers, certes, elle est philosophe, pour Bruno Latour, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il se revendique d'une tradition sociologique et d'anthropologue. Mais néanmoins, imagine, Latour intéresse les philosophes et on peut clairement dire que c'est un philosophe. Donc, on peut penser à Deleuze et Guattari, mais avec une complète autre manière de relation et de faire quasiment œuvre commune.
Oui, évidemment, quand on pense aux grandes amitiés philosophiques, on pense évidemment à l'amitié entre Deleuze et Guattari. Vous avez tout à fait raison. Surtout que ces deux auteurs ont beaucoup compté pour Latour et pour Sengers. Guattari, par exemple, a beaucoup compté pour Sengers. En ce qui concerne Guattari, peut-être plus Sengers que Latour. Mais évidemment, ce n'est pas le même genre de choses, parce que écrits en commun par Deleuze et Guattari, et tous leurs textes à partir d'une certaine date sont écrits en commun, jusqu'au dernier, Qu'est-ce que la philosophie, on ne peut pas décerner dedans ce qui vient de Latour, ce qui vient de Deleuze et ce qui vient de Guattari. Eux-mêmes refuseraient absolument toute possibilité qu'on discerne ce qui vient de l'un et ce qui vient de l'autre. Et on sait sans doute, on peut penser qu'il y a beaucoup de fulgurances qui viennent de Guattari et que Deleuze retravaille ensuite ces fulgurances. Mais on ne peut pas discerner. C'est une amitié philosophique qui va fonctionner sur un rythme très particulier. Ce qui se passe entre Sengers et Latour est très différent. Et le fait qu'ils ont écrit si peu ensemble, parce que justement leur amitié suppose non pas un qui serait du côté des fulgurances et des propositions absolument, disons, audacieuses, brisant tous les tabous, obligeant de tout repenser, et puis de l'autre côté, une mise en pensée, une fabrication de pensée à partir de ces fulgurances. Non, des deux côtés, on a une élaboration conceptuelle qui n'est pas sans friction. Il y a des moments de friction entre les deux, mais ces frictions, les deux les aiment quelque part. C'est quand il y a friction entre une proposition de Latour et ce que Sengers en fait, ou l'inverse, il y a une friction qui est heureuse, vécue de manière heureuse des deux côtés. Ah, je suis heureux que là, on n'ait pas dit la même chose de la même manière. Donc, ils ne disent pas les mêmes choses de la même manière. Donc, ça rendait sans doute extrêmement difficile d'écrire des textes en commun, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Mais que leurs textes, pour moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre bien l'un sans lire l'autre. C'est un peu curieux de dire ça, mais ça se tricote entre les deux, et on peut difficilement comprendre bien l'un. Par exemple, si vous prenez cette question du capitalisme que vous évoquiez, Sengers parle évidemment du capitalisme sans problème. Latour va dire, bien sûr, vous avez le droit de parler de capitalisme, mais il va se montrer très exigeant. Exigence d'ailleurs auquel Sengers répondra quand elle parlera de capitalisme, c'est-à-dire que n'employez pas le mot de capitalisme pour résoudre trop vite les problèmes. Pour que ça se transforme quelque part, au lieu d'être un outil pour penser, que ça devienne la réponse toute faite au problème qui se pose. Donc si vous prenez par exemple sur la question écologique, on pourrait dire qu'il y a deux façons de se conduire. Vous pouvez dire, les gens qui sont dans la tradition marxiste peuvent dire « Ah ben finalement, le réchauffement climatique n'est que la énième conséquence de toutes les conséquences dont on a déjà fait la liste des malheurs apportés par le capitalisme. » Donc voilà, en plus de tous les malheurs apportés précédemment, le capitalisme, qui s'appelleront à ce moment-là d'ailleurs, ils passeront du mot anthropocène au mot capitalocène, éventuellement, le réchauffement climatique en fait partie. Donc voilà, ça nous donne une raison de plus de nous battre contre le capitalisme. La Tour et Stengers, les deux, de ce point de vue-là, proposent de faire autre chose. C'est de dire en quoi le réchauffement climatique, en quoi ce que l'on appelle l'anthropocène, nous oblige à repenser tout ce que le marxisme avait proposé, à savoir la lutte des classes, à savoir la question de la marchandise, à savoir la question en importance des destructions dans ce que le capitalisme produit. Et donc, on peut faire du nouveau régime climatique, de l'écologie, non pas une manière de venir « Ah, ça confirme bien ce que l'on pensait du capitalisme », mais comment ça interroge le marxisme, comment ça oblige à repenser le marxisme et comment ça va obliger les gens qui se situent dans la tradition marxiste à repenser les choses. Et donc, vous voyez, on pourra à ce moment-là saisir la question du capitalisme autrement. Et quand Stengers parle du capitalisme, elle est toujours très prudente sur la manière justement de ne pas faire cette formule quelque part un outil qui évite de penser les choses, un raccourci. Jamais n'employer la formule de capitalisme comme un raccourci, mais comme quelque chose que le nouveau régime climatique vient réinterroger. C'est vrai que on peut se dire, par exemple, le marxisme essaye de penser les possibilités de transformer le monde. C'est vraiment autour de créer un nouveau monde. Mais comment la question de ce temps que La Tour appelle nouveau régime climatique, Isabelle appelle ça un temps de débâcle, ce temps de débâcle nous oblige à repenser la manière dont on pense le changement du monde? Comment éventuellement ça devient comment le monde va être transformable ou pas? Ben avec l'entrée dans l'anthropocène, on ne peut plus penser la transformation du monde, une société d'abondance, par exemple, telle que les marxistes la pensaient, de la même manière qu'avant. Donc ça vient, non pas l'anthropocène ou le capitalocène ne viennent pas, confirmer ce que le marxisme disait déjà, ça va trop vite, mais ça nous oblige à repenser autrement ce que l'on peut appeler le capitalisme et ce qu'on peut penser comme monde nouveau à construire. Le monde nouveau à construire peut plus être le même dans un monde qui est défini par l'anthropocène ou dans un monde ressources illimitées, sans anthropocène, tel que les marxistes le pensaient il y a encore 30 ou 40 ans.
Alors, j'aimerais revenir à cette comparaison entre Isabelle Stengers et Bruno Latour et Deleuze et Guattari, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me saute aux yeux. Vous avez parlé de « Qu'est-ce que la philosophie ?», le dernier livre de Deleuze et Guattari, qui est publié en 1991. Mais en 1991, c'est la date d'édition de « Nous n'avons jamais été modernes » de Bruno Latour. Or, vous relatez cela, qui s'est passé en 1987, entre Isabelle Stengers et Bruno Latour, et sans doute que c'est là qui pourrait se tenir l'origine, pour Bruno Latour, de l'écriture de « Nous n'avons jamais été modernes ». Si bien que c'est assez étonnant comme concomitance entre Deleuze Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie en 91 ?», leur dernier livre, et soudain... par « Nous n'avons jamais été modernes », c'est peut-être l'irruption la plus directe de l'amitié entre Stengers et Latour. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Je vais lire l'anecdote que vous racontez parce qu'elle est véritablement à prendre au sérieux. Et notamment, c'est parce que vous dégagez un des traits caractéristiques d'Isabelle Stengers. Vous écrivez « Mais il nous faut maintenant revenir sur un épisode raconté par Latour lui-même. » Alors, vous reprenez ce texte qui est merveilleux de Bruno Latour, qui s'appelle « Biographie d'une enquête ». Je précise qu'on le trouve très facilement sur Internet, complètement gratuit. C'est un texte assez court de 15 pages qui est absolument éclairant sur justement la manière dont s'est conçue la pensée latourienne, du moins en tout cas dans la fin des années 80, début des années 90, jusqu'à l'enquête sur les modes d'existence. Donc vous reprenez. Il nous faut maintenant revenir sur un épisode raconté par Latour lui-même, et vous le citez. « À tous mes développements semi-sémiotiques, elle, Isabelle Stengers, opposait un vigoureux « je sais bien mais quand même » et par un brusque mouvement circulaire de la main droite, dont elle a le secret, exiger que quelque chose fasse irruption dans l'analyse, quelque chose qui soit le monde, mais autrement dit. Latour poursuit en racontant la scène. Je suis à peu près sûr que c'est en 1987, donc après avoir écrit « L'avis de laboratoire » et la version anglaise de « La science en action », au bord de la piscine des Treilles, qu'elle partage avec moi, au cours d'une conversation, une citation stupéfiante de Whitehead sur le risque pris par les rochers, oui, les rochers, pour continuer dans l'existence. Étendu au soleil sur une île au large de Göteborg en Suède, ce mois d'août-là, je ne cesse de peser du doigt la surface rouge et rugueuse de ces rochers pour vérifier s'il est possible que Whitehead ait raison. Il existe un monde d'existence complètement autonome, très mal compris par la notion de nature, de monde matériel, d'extériorité, d'objet, un mode qui partage avec tous les autres un trait capital, le risque pris pour continuer à exister. Et il ajoute, à partir de là, tout va se mettre en place très vite. Je peux dresser d'un seul geste la table des régimes sur lesquels il va falloir enquêter plus systématiquement. C'était en été 87, et après il écrit « Nous n'avons jamais été modernes » 1991.
Oui, c'est un épisode important parce que effectivement Latour le raconte lui-même, et quelque part il y a un philosophe qui apparaît là, entre les deux, qui va jouer un rôle tout à fait décisif pour nos deux auteurs, qui est Alfred North Whitehead, philosophe peu connu, dont Deleuze n'avait pas quand même parlé, puisque quand Deleuze fait son cours, on le trouve sur Internet, là aussi, il suffit d'aller au cours de Deleuze sur Internet, et qui ont été enregistrés, dont on trouve les bandes vidéo et le texte sur un site Internet. Et Deleuze fait une année entière, ou plusieurs années, mais qu'il va consacrer à Leibniz. Et dans cette année consacrée à Leibniz, il va consacrer, dans les années 84-85, il consacre une séance, dit-il, à un philosophe qui est aussi important que Leibniz et qui va redoubler toute la philosophie, qui est Alfred North Whitehead, qui est mort dans les années 50, qui a d'abord été un mathématicien, qui a travaillé avec Russell, qui a publié avec Russell des choses spécialisées sur les mathématiques, et qui ensuite va devenir un philosophe en faisant des cours de philosophie à Harvard. Et c'est ce Whitehead philosophe qui va intéresser Deleuze, et Deleuze fait son cours sur Whitehead, et c'est très amusant d'ailleurs à l'époque, parce que dans le cours, on entend Deleuze dire je vais consacrer la séance aujourd'hui à Whitehead, et je profiterai de la présence d'Isabelle Stengers, qui est parmi nous déjà à cette époque, oui, une jeune Isabelle, pour qu'elle vienne contrôler, parce qu'elle connaît beaucoup mieux Whitehead que moi, et elle pourra nous dire ce qu'elle en pense. Et c'est amusant pour ceux qui écouteront, parce qu'on entend régulièrement Deleuze dire « Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce que je dis là est exact ?» Et à ce moment-là, comme Isabelle doit être dans le fond de la salle, il y a marqué « inaudible ». Donc on n'entend jamais ce que Isabelle Stengers répond, mais on entend par contre Deleuze qui dit « Ah, je ne suis pas totalement d'accord avec Isabelle là-dessus, mais c'est sans doute elle qui a raison, parce qu'elle connaît bien mieux Whitehead que moi ». Et donc il y a cette espèce de dialogue un peu, sans qu'on entende la voix d'Isabelle, déjà sur la place de Deleuze, effectivement très tôt, Isabelle va s'intéresser à Deleuze. Ce que Latour résumera en disant que finalement, il a une formule, Latour, il dira que avec Whitehead, on a les moyens de faire ce qu'il appelle une extension extraordinaire du matérialisme. Et on va pouvoir avoir une extension extraordinaire, enfin il a des formules de ce genre, du matérialisme, et Latour insistera toujours sur le fait que c'est une démarche matérialiste qui l'intéresse. Il faut enfin être matérialiste. On a enfin prendre en charge la vraie matière. Et là, effectivement, dans l'épisode que vous avez cité, qu'il raconte avec Isabelle, où Isabelle, évidemment, lui introduit Whitehead sur les choses qui durent et qui perdurent, qui persistent, c'est du Whitehead pur et pur, pur jus, Latour, là, va, à ce moment-là, pouvoir introduire une distinction entre deux modes d'existence qui seront au centre de son livre, qui s'appelle « Enquête sur les modes d'existence », et qui rendront possible tout son travail sur Gaïa, qui est distinguer un mode d'existence qu'il appelle la référence, qui est la façon dont les sciences fonctionnent, c'est-à-dire les sciences fonctionnent en transformant, mais en maintenant tout au long de leurs expériences, quelque chose qui se maintient, ce qu'il avait appelé à un moment donné un mobile immuable, qui vont parcourir depuis l'observation au microscope d'un neurone, puis la transformation de cette observation en un tableau statistique, puis en une courbe, puis etc., etc. Il y a quelque chose qui se maintient, une référence, un mobile immuable qui circule depuis le début jusqu'à la fin de toutes les opérations de transformation qu'opère le travail scientifique. Et ce mobile immuable qui circule, c'est-à-dire il est immuable, il ne bouge pas, et en même temps il se transforme en permanence au fil du raisonnement scientifique et du travail du scientifique, des chercheurs ou des équipes de chercheurs, évidemment, cette chose qui circule, elle est très particulière. C'est ce qu'il appelle la référence. D'où il va l'appeler REF, comme un mode d'existence. Il va le distinguer d'un autre mode d'existence qu'il va appeler REP, pour reproduction, qui est les choses elles-mêmes. Et là, c'est quelque part, c'est très darwinien. C'est les choses doivent se maintenir dans leur existence et doivent ils se maintiennent toujours en se transformant aussi quelque part. Les êtres vivants, par exemple, ou les montagnes ou les roches, toutes elles se maintiennent dans l'existence, même si elles se transforment, parce que la roche, elle va subir une dégradation, une transformation due à l'exposition climatique. Le vivant, il va se transformer aussi, en particulier dans ce que le darwinisme nous a appris, des transformations des vivants. Mais donc ça, il ne faut pas surtout confondre les deux. Et c'est là ce qu'il explique, c'est qu'il a découvert que le pire, ce serait de confondre ce mode d'existence qui est celui des objets scientifiques, qui ont leur particularité, et ce mode de ce qu'il appelle la reproduction ou l'engendrement. Il parle aussi beaucoup d'engendrement, qui est la manière dont, quelque part, les choses elles-mêmes se maintiennent. Et Bruno sera très frappé aussi par un livre qui s'appelle « Carbone démocratie », dans lequel l'auteur, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est facile à trouver, explique très bien qu'on ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé autour des luttes de classe au XIXe siècle si on ne comprend pas la nature matérielle du charbon. C'est-à-dire que le charbon, dans son mode d'existence propre, la difficulté de l'extraire, la lourdeur du transport, la lourdeur pour l'amener depuis le lieu d'extraction jusqu'au lieu de consommation, rend possible un mouvement ouvrier qui peut bloquer très facilement et ça tient à la matérialité propre. Vraiment, c'est du matérialisme, encore une fois, extraordinairement étendu pour comprendre comment le charbon rend possible une certaine lutte des classes et comment le pétrole, par exemple, qui circule de manière très différente du charbon dans des pipelines, etc., va complètement inaugurer une nouvelle époque aussi où la difficulté de bloquer, on ne bloque pas des convois de charbon comme on bloque du pétrole. Hein, c'est autre chose. Et ça va transformer les conditions. Cette matérialité même du pétrole, cette matérialité même du charbon vont avoir un effet très important sur les luttes des classes, sur les luttes en général. Et là, si vous voulez penser Gaïa, on en arrive au bout de la chaîne, penser Gaïa chez Latour aurait été impossible à penser sans cette distinction entre REF, le mode d'existence des objets scientifiques, et REP, le mode de reproduction des choses en elles-mêmes, le mode d'engendrement des choses, puisque Gaïa, c'est l'entremêlement de tous ces modes, de toutes ces façons de s'engendrer les unes les autres et de pouvoir continuer à s'engendrer, de faire que dans Gaïa, chaque être qui existe et qui se reproduit et qui s'engendre dépend de multiples autres. Et donc, quand on étudie Gaïa, les scientifiques étudient Gaïa, qui étudient les roches, qui étudient les êtres vivants, qui étudient les plantes, qui étudient les fleuves, qui étudient les nuages, qui étudient les mers, ils étudient les vents, etc. Ils étudient, ils sont totalement dans le mode d'existence REP, c'est-à-dire dans l'existence de la manière dont les êtres s'engendrent, dont les êtres se reproduisent. Et donc, cette question, du coup, de la reproduction et de l'engendrement, elle devient au centre de la pensée de ce qu'est Gaïa chez Latour. Et Gaïa n'est pas, donc, une fuite dans l'idéologie ou dans le New Age ou dans des choses de ce genre. Gaïa, c'est une façon d'être encore plus matérialiste que nous l'étions avant. Je crois que c'est ça qui est au centre de cet épisode et de la manière dont on pourrait en parler.
Mais c'est assez stupéfiant la manière justement dont vous en parlez, Philippe Meignard, parce que tout ça provient déjà de l'intérêt pour Isabelle Stengers, pour Whitehead. Ce que vous avez raconté de cette conférence, de ce cours de Deleuze où il y avait Isabelle Stengers au fond, c'est absolument phénoménal, quoi. Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus sur l'héritage philosophique en commun, parce qu'ils ont un héritage philosophique en commun. Vous écrivez, Latour et Stengers ont un héritage philosophique largement commun, d'abord celui du pragmatisme américain, avec William James et John Dewey, puis Alfred North Whitehead, Gilles Deleuze, ou plus près de nous, Donna Haraway. Ils ont par ailleurs commencé leurs travaux sur les sciences en côtoyant Michel Serres, même s'ils s'en sont ensuite détachés. Et on pense effectivement à ce livre d'entretien entre Bruno Latour et Michel Serres.
Oui, qui était une façon pour Bruno Latour de, quelque part, de dire ses adieux à Michel Serres. Mais c'est un livre important, hein. Je pense qu'il est épuisé, c'est dommage. Ce livre mériterait d'être réédité. Il était sorti chez Grasset, je crois, à l'époque, il faudrait voir. Sinon,
chez Bourin.
C'était chez Bourin, vous avez raison, c'était chez Bourin. Vous connaissez mieux que moi.
C'est parce que j'ai le livre chez moi, l'original.
Voilà, c'est un très joli petit livre, oui. Ouais. Latour et Stengers, c'est vrai, quelque part, ils ont la rencontre avec les travaux de Whitehead a été très importante. Et Whitehead, quelque part, c'est quelqu'un qui dit l'époque philosophique, ouverte par, quelque part, Descartes, avec le cogito, je pense, donc je suis, etc., dit-il, se termine avec, dit Whitehead, avec un philosophe américain qui est William James, qui est un pragmatiste, qui est très important aussi bien pour Latour et Stengers aussi, qui est très important pour Whitehead, parce que Whitehead considère qu'il est celui qui hérite et qui va transformer la nouvelle invention de James. Et effectivement, chez James, on met fin pour Whitehead à l'époque ouverte par Descartes, parce que le jeu n'est plus au centre. C'est-à-dire, on peut dire « je pense, donc je suis », c'est penser qu'on peut penser le monde, en commençant par le jeu. Or, le jeu est le résultat lui-même d'une très longue élaboration. Il faut beaucoup de choses pour qu'un jeu surgisse qui puisse dire « je pense ». Et il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une version... et là, on peut reprendre l'idée de matérialisme de Latour. Quelque part, se situer dans cette idée de cartésienne, c'est très antimatérialiste, parce que mettre le jeu comme point de départ... C'est quelque part un peu pas très matérialiste, hein, c'est très idéaliste. Je crois que aussi bien, Whitehead a bien montré comment chez James, on part d'une indifférenciation assez absolue, dont le jeu sera un résultat très ultime. Et donc, quelque part, ils ont, je crois, tous les deux, totalement épousé ils se sont totalement situés dans ce que j'aurais envie d'appeler ce nouveau matérialisme entre guillemets proposé par Whitehead dans l'héritage de William James. Alors c'est vrai que Dewey a aussi beaucoup compté, peut-être plus pour Latour que pour Stengers, à cause de sa réflexion sur l'État. Et je crois que Latour a été très influencé et très passionné par la façon dont John Dewey a pensé la question de l'État. Et aujourd'hui, où Latour essaye de réfléchir à ce qu'il appelle la nouvelle classe écologique, pour essayer de penser les nouveaux rapports de lutte et d'opposition qui pourraient définir notre situation à l'époque du nouveau régime climatique, cette conception de l'État qui était celle de John Dewey, je crois, a été un maillon essentiel pour penser ça. Je pense que c'est moins vrai chez Stengers, sans doute. Et Stengers, par contre, je pense, a donné toujours une très grande importance à la pensée de James. Et elle est souvent revenue sur des propositions jamesiennes pour penser philosophiquement.
Alors maintenant, ceci étant posé, on a posé des bonnes bases sur leur amitié, sur leur relation. Une surprise dans votre livre, Philippe Pignard, concerne la valeur quasi prémonitoire que vous accordez à ce texte Irréduction, qui est peut-être le texte le moins lu de Bruno Latour, que nous trouvons actuellement en libraire, enfin, dans son livre sur Pasteur, guerre et paix, il y a en fin d'ouvrage ce livre, Irréduction, qui est assez compliqué à lire. Vous l'expliquez bien pourquoi vous écrivez cet ouvrage, est assez stupéfiant, car enfin, il est compliqué à lire parce que c'est une sorte de traité philosophique, en fait. Ça reprend, c'est la méthode du Tractacus de Wittgenstein, et du coup on est dans quelque chose de très très logique. Mais vous avez repéré dedans, et ça me fait replonger justement dans Irréduction, vous écrivez: cet ouvrage est assez stupéfiant car il précède une grande partie des études ethnographiques de Latour et peut être mis en rapport étroit avec ses propositions philosophiques plus tardives, en particulier celles que l'on trouvera dans Face à Gaïa et dans les deux livres qui vont suivre, Où atterrir et Où suis-je. Et alors là, vous faites une lecture de Irréduction, vous nous redonnez, pas l'envie, mais en tout cas, vous nous intimez quasiment l'ordre, allez voir dans Irréduction, publié pour la première fois en 1984, parce que là, il y avait déjà écrit dedans toutes les intuitions postérieure de Bruno Latour.
Oui, tout à fait. Je pense que ce texte a beaucoup marqué Isabelle Stengers. Je pense que pour elle aussi, elle a sans doute vu dans Irréduction là où Latour, comme philosophe, allait compter. Et comme le premier texte de philosophie en tant que tel de Latour, texte qui, encore une fois, va compter, et ce qui est étonnant, parce que c'est quand même un texte de jeunesse, il y a, comme vous le dites, il y a déjà en germe toute une pensée écologique. Il y a en germe toute une pensée de la matérialité. Il y a en germe toute une... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Tout un appel à, non pas critiquer, parce que Bruno n'est pas du côté de la pensée critique, mais tout un appel à résister. J'avais préféré beaucoup le mot résister au mot critiquer. Parce que la philosophie, ça sert d'abord à résister. Et il y a là quelque chose dont on va trouver des fulgurances, qui sont encore à l'état de fulgurance souvent, mais qui nous amènent aux derniers travaux de Latour, avec parfois effectivement des choses même presque amusantes, parce qu'il va prendre par exemple, dans Où atterrir, un de ses derniers livres, l'exemple des termites, pour qu'on comprenne que les termites vivent dans un monde qu'elles secrètent en permanence. C'est-à-dire les termites, elles sortent jamais quelque part à l'extérieur. L'extérieur des termites, c'est l'extérieur qu'elles ont sécrété avec de la salive, etc. Et elles vivent toujours. Et Latour a pris cet exemple-là dans Où atterrir, en disant que le monde, quand on sort dans la rue, on n'est pas non plus on est dans un monde qu'on a sécrété. C'est-à-dire les rues, les immeubles, les trottoirs, les devantures, c'est tous des sécrétions humaines, quelque part. Et donc, on vit également dans un monde qu'on a sécrété. Et on pourrait difficilement imaginer vivre en dehors du monde que nous sécrétons. Et cet exemple des termites, il était déjà présent, curieusement, j'ai découvert en faisant ce livre, en relisant les textes, il était déjà présent dans la pensée de Bruno des irréductions. Et cet exemple des termites va cheminer de manière un peu secrète, de manière un peu cachée, pendant 30 ans, 40 ans. Et Bruno s'en resserre aujourd'hui pour penser la manière dont nous fabriquons le monde dans lequel nous vivons. Et donc, c'est un texte qui est en annexe de son livre sur Pasteur, guerre et paix, les microbes. C'est un petit livre de poche, donc c'est assez facile à se produire. Et pour les gens qui sont philosophes, je pense que c'est un livre important parce que Bruno, évidemment, on a souvent dit c'est un sociologue des sciences. Mais en fait, très vite, Bruno a été en conflit avec ceux qui sont définis comme sociologues des sciences, qui sont essentiellement des courants américains. Et il a souvent été combattu très férocement par eux. Et Bruno s'est très vite défini beaucoup plus comme ethnographe. Parce que dès le départ, Bruno part en Afrique, au début de sa carrière, en Côte d'Ivoire, et très vite, Bruno dit, mais les outils de l'ethnographie que nous utilisons pour étudier les peuples lointains, il faut que nous les tournons vers nous-mêmes et qu'avec les mêmes méthodes ethnographiques, nous étudions, nous, qui nous sommes les modernes, évidemment. Est-ce qu'on est vraiment des modernes comme nous prétendons l'être ? Livre qui, etc., nous n'avons jamais été modernes, pour montrer qu'en fait, nous ne sommes pas ce que nous prétendons être, nous ne savons pas nous décrire, nous ne savons pas dire qui nous sommes. Et évidemment, essayer de s'intéresser à qui sont les modernes, ça supposait de s'intéresser aux sciences, parce que c'est les sciences qui apparaissent aux yeux des modernes eux-mêmes. comme étant leur principal titre de gloire. Donc si nous sommes si fiers de nos sciences, c'est évidemment la raison de commencer par s'intéresser aux sciences. Et c'est pour ça que Latour va commencer ensuite son premier travail d'ethnographie en allant à San Diego dans l'Institut Salk dirigé par Guillemin, qui aura quelques années plus tard le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'hormone de croissance. Et c'est là, dans ce laboratoire, que Latour va commencer à étudier les sciences et va poser les jalons d'un travail qui va durer plusieurs dizaines d'années, hein, et qui quelque part continue encore, qui est de comprendre comment les sciences se fabriquent et comment les sciences s'inventent, en rupture totale avec les anciennes épistémologies, ce qu'on appelait l'épistémologie, qui a été pour Bruno un ennemi de toute sa vie, en particulier l'épistémologie bachelardienne ou celle de Canguilhem. Et donc Latour va construire une nouvelle manière ethnographique, il va faire l'ethnographie du travail scientifique pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je crois que dès Irréduction, qui est le premier texte vraiment philosophique au sens propre, de spéculatif, vraiment un texte spéculatif de Bruno Latour, la modernité de ce texte et la continuité entre ce texte-là et les textes successifs de Latour jusqu'au dernier texte est vraiment fascinante et stupéfiante.
Alors tout ce dont vous venez de nous parler, Philippe Pignard, nous amène à la guerre des sciences. Parce que la guerre des sciences, c'est quand même un épisode sacrément conflictuel. Bruno Latour en a fait énormément les frais. Et dans cette histoire d'amitié entre Isabelle Stengers et Bruno Latour, on peut imaginer qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne guerre pour les unir à tout jamais et pour les rassembler. Parce que Isabelle Stengers a été complètement impliquée, elle aussi, dans cette guerre. C'est elle-même, je crois que l'expression « guerre des sciences » provient d'Isabelle Stengers et que ça les a soudés à tout jamais.
Alors oui... Évidemment, ils ont attaqué Latour. Curieusement, les gens, les socaliens, en gros, tous les gens qui contestaient le fait que les ethnologues, les ethnographes, les philosophes, ça pouvait s'intéresser aux sciences, il y avait quelque chose à dire sur les sciences. Curieusement, ils n'ont jamais attaqué Isabelle Stengers. Comme si elle les terrorisait quelque part. Il y a un aspect comme ça, parce qu'Isabelle Stengers, on ne lui raconte pas n'importe quoi en matière de science, hein. Elle est née quand même à la pensée dans le laboratoire d'Ilia Prigogine, prix Nobel de chimie, qui a beaucoup travaillé sur la question de la réversibilité du temps ou l'irréversibilité du temps en physique, qui a travaillé sur les systèmes dissipatifs, points d'équilibre, enfin toute une série de questions que j'aborde pas du tout dans ce livre parce que c'est des questions mais qui comprennent la première période de son travail de pensée. Et on sait que les grands livres d'Ilia Prigogine ont été écrits en commun avec Isabelle Stengers, hein, que ce soit tous ces premiers livres qui ont marqué la situation et qui l'ont imposé tout de suite comme une grande penseuse de la science et des sciences. Et donc, curieusement, ils se sont bien gardés, vu la connaissance extrêmement précise et presque intime qu'elle avait de la physique et de la chimie, ils se sont bien gardés de se frotter à elle. Effectivement, par contre, ils ont tout de suite caricaturé le travail de Latour en assimilant la pensée de Latour à celle des sociologues dits relativistes américains et anglais, alors que Latour ne cessait de batailler contre eux et ne cessait de se distinguer d'eux en étant justement, comme dans l'épisode que vous avez lu tout à l'heure, en montrant qu'il était tout sauf un relativiste. Enfin, confondre Latour avec Feyerabend ou avec des gens qui ont travaillé après beaucoup plus tard dans le monde anglo-saxon sur les sciences en étant relativiste, en gros, c'est une monstruosité théorique et ça n'a cessé d'être fait. Ça n'a cessé d'être fait de manière répétitive. On a répété que Latour était un relativiste, alors que Latour n'est pas du tout un relativiste. C'était, quelque part, il a mené tout son combat contre ce qui est devenu la sociologie des sciences anglo-saxonnes, contre le relativisme. C'est un matérialiste, fondamentalement, qui veut élargir le champ du matérialisme et qu'on soit vraiment matérialiste. Donc on est vraiment loin, évidemment, du relativisme. Mais en même temps, ce que Latour veut, c'est qu'on respecte les modes d'existence. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de REF, pour la référence propre au travail scientifique, de REP, la reproduction propre à Gaïa, propre aux montagnes, à cette table, à tout ce qui se maintient. Mais il a d'autres exemples. Il y a un exemple très connu d'un mode d'existence qui est très particulier, sachant que ces modes d'existence doivent être respectés chacun dans leur autonomie, dans ce qui fait leur logique, dans ce qui fait leur force et dans ce qui fait leur caractéristique propre. Il donne l'exemple de la fiction. C'est vrai que il va l'appeler ça FIC, F-I-C, fiction, c'est un mode d'existence très particulier. Madame Bovary, pour donner cet exemple, je crois que c'est je ne sais pas si c'est Bruno qui le donne, je crois qu'il le donne lui-même cet exemple, Madame Bovary, si vous allez, si vous dites « Ah ah, Madame Bovary, elle n'a jamais existé », c'est donc faux, tout le monde va vous rire au nez, et à juste titre. Parce que le mode d'existence de Madame Bovary n'est pas le mode d'existence de cette table ou de ce micro en face duquel je parle. C'est un autre mode d'existence propre à la fiction. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Quand un écrivain comme Flaubert écrit Madame Bovary, il est soumis à un ensemble d'obligations que son sujet même lui dicte. Madame Bovary, au fur et à mesure qu'il écrit, elle prend son autonomie et elle oblige Flaubert à certaines choses. Il ne peut pas faire n'importe quoi de Madame Bovary. Il ne peut pas la transformer en autre chose. Et elle va l'obliger. Donc l'œuvre à faire oblige celui qui fait cette œuvre. Il y a à la fois le pot et le potier. Le potier ne fait pas ce qu'il veut. Il y a la glaise qui joue son rôle. Et c'est la relation entre les deux qui joue un rôle. Et donc, je crois que cet exemple-là... d'un mode d'existence comme la fiction. Alors, tous ces modes d'existence, Bruno en distingue 15 dans son livre, sans prétendre être de manière exhaustive. Il ne construit pas une cathédrale. La tour, comme Senghas, n'a jamais construit de cathédrale. Il ne travaille pas comme ça. Il ne travaille pas en construisant des cathédrales théoriques. Il construit de manière plus par un travail d'accumulation, d'histoire, d'exemple, de fabrication réussie ou non réussie. Eh bien, les modes d'existence veulent bouffer les autres. La religion, la parole religieuse plutôt, comme mode d'existence, a voulu souvent bouffer et expliciter tous les autres modes. Le mode d'existence propre aux sciences a voulu bouffer toutes les autres aussi. Et donc, appauvrir le monde. Donc, un monde riche de tous ses potentiels, de tous ses possibles, etc., c'est un monde où les différents modes d'existence peuvent se développer, sont respectés dans leur particularité et dans la dignité qui est celle de chaque mode d'existence. Le pire, c'est de juger un mode d'existence avec les critères qui permettent d'en juger un autre. Si vous jugez la parole religieuse avec le mode d'existence qui est propre aux objets scientifiques, vous aboutissez très vite à des catastrophes. Et pareil, si vous faites l'inverse, si vous jugez les sciences avec le mode d'existence propre de la parole religieuse, vous aboutissez à d'autres catastrophes. Donc il s'agit de bien distinguer chacun des modes d'existence pour que nous ayons un monde plus complet, un monde plus riche, et c'est le travail de la philosophie, dit Isabelle Stengers très clairement. Le travail de la philosophie, c'est que tout soit entendu, que rien de dont nous avons l'expérience ne soit éliminé et passé par pertes et profits. Et ce qui souvent fait la pensée critique, qui va souvent éliminer des choses. Donc chaque chose doit être entendue, doit être respectée dans sa dignité et à sa place, ce qui suppose souvent, et ça c'est une proposition aussi qu'a fait Isabelle Stengers, et qui ne peut que plaire à Bruno Latour, dans ce qu'elle a appelé la diplomatie, héritée de Leibniz, ce qui suppose souvent de transformer ce qui apparaît comme des contradictions en des oppositions qui peuvent être négociées et discutées. Et elle prendra l'exemple souvent, l'ethnopsychiatrie de Toby Nathan, avec ces êtres invisibles, avec ces puissances qui existent indépendamment des humains qui les transforment de l'extérieur, avec ces sorciers et ces sorcières, ne doit pas être, doit avoir sa place dans un monde où il y a d'autres choses. Et l'un ne doit pas éliminer les autres. Donc il faut concevoir le monde avec tous ces êtres, qui se complètent. C'est ce qu'Isabelle Stengers a appelé la cosmopolitique, qui permet la coexistence de tous ces êtres, toutes ces expériences, les unes avec les autres. Ce qui n'est pas, encore une fois, pour Isabelle, ça sera très important pour elle, ce n'est pas de la tolérance. Ça veut dire que ce n'est pas de la tolérance, mais ça veut dire qu'une expérience peut insister et qu'on ne peut pas facilement l'éliminer. Par exemple, si vous dites « je jugerai l'homéopathie avec les critères inventés par l'industrie pharmaceutique et l'État pour juger les médicaments classiques », vous arriverez très vite à dire « ce n'est que des placebos ». Mais ça ne résout pas le problème de dire pourquoi je fais l'expérience de médecins et de patients qui sont aussi attachés que ça à l'homéopathie. Ça fait partie de mon expérience du monde. Des quantités très importantes de médecins et de patients sont attachés à l'homéopathie. Eh bien, ça ne veut pas dire que Je dois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sans exigence à leur égard. On doit leur dire comment parleriez-vous? Comment de votre expérience d'homéopathie? Comment avez-vous envie de mettre cette expérience dans en discuter et le mettre en discussion? Mais ça veut dire que je ne vais pas les juger à leur place. Je ne vais pas utiliser une méthode universelle de l'étude contre-opéative pour les juger et les disqualifier. Je vais continuer à penser qu'ils peuvent faire partie du monde commun. Et je vais continuer à penser qu'un monde où l'homéopathie est interdite, où les patients ne seraient plus obligés que clandestinement de faire de l'homéopathie, sera un monde appauvri. Et je n'ai pas envie de ce monde appauvri-là. Et ça, c'est tout ce dont nous avons l'expérience doit pouvoir entrer dans le monde commun. Je crois que ça, c'est effectivement très important. C'est ce qu'Isabelle Senghas a appelé la cosmopolitique, mais c'est aussi ce qu'a justifié par Bruno Latour la proposition qu'il a appelée à un moment donné le Parlement des choses. C'est-à-dire le Parlement des choses doit pouvoir faire entrer dans ce Parlement toute une série de causes et de choses, à condition, en sachant que c'est à elles qu'il leur appartient de se présenter de manière à pouvoir faire partie du monde commun.
Alors j'aimerais qu'on termine sur un autre épisode de leur relation, un moment fort. Donc on ne parlera pas du Parlement des choses et on ne parlera pas de Gaïa. J'aimerais qu'on termine avec les fétiches. Parce qu'il s'est passé là quelque chose de très très important. C'est là où Bruno Latour tient son mode pour métamorphose, qu'il va croiser avec Fic pour fiction. Et donc c'est quelque chose aussi très important. Et ça, c'est un propre rapport d'Isabelle Stengers. Parce que ce concept de fétiche, F-A-I-T, de Bruno Latour et son livre sur le culte moderne des dieux fétiches, ça provient d'une... Alors j'ai envie de dire une injonction d'Isabelle Stengers de dire « Bruno Latour, va voir Toby Nathan ». Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous écrivez « Stengers va introduire un nouvel acteur dans ce débat, Toby Nathan. Elle a ce talent de déceler les travaux les plus prometteurs dans les champs les plus divers, ici l'ethnopsychiatrie. Or, Toby Nathan et Isabelle Stengers vont écrire ce livre « Médecins et sorciers » que vous avez édité, qui a été édité un an avant la première mouture sur le culte moderne des dieux fétiches, qui s'appelait un petit peu, enfin le titre est un petit peu modifié, je ne m'en souviens plus, mais parce qu'il y a eu plusieurs éditions de sur le culte moderne des dieux fétiches. Et donc un an avant, Stengers travaille avec Toby Nathan et écrit ce livre très très comment dire très très important, Médecins et sorciers. On peut presque considérer que c'est le grand manifeste de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Toby Nathan avait besoin de philosophes comme Isabelle Stengers pour véritablement théoriser l'ethnopsychiatrie jusqu'au bout. Bien entendu, il avait déjà théorisé Toby Nathan, mais peut-être pas à ce point-là, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le duo Prigogine-Stengers à la fin des années 70, eh bien Stengers a refait un duo avec Toby Nathan, avec ce livre ô combien puissant, Médecins et sorciers. Et que donc Isabelle Stengers a l'intuition que cela va intéresser Bruno Latour. Et moi, j'imagine bien qu'elle ait donné l'injonction à Bruno Latour, va voir Toby Nathan. Et que Bruno Latour s'est donc fait stagiaire pendant un an chez Toby Nathan et qu'il en a forgé très rapidement, parce que très très rapidement, c'est en même temps qu'il est stagiaire, il écrit sur le culte moderne des dieux fétiches et il invente ce concept de fétiche. Qui, du coup, l'entraîne après aussi sur les... Alors, il ne va pas utiliser il va plus réutiliser le fétiche dans les modes d'existence. Dans son enquête sur les modes d'existence, il a quasiment gommé fétiche. Je crois qu'il a utilisé qu'une fois le terme dans le livre. Mais néanmoins, c'est la base du mode métamorphose. Et donc, cette histoire-là, vous, j'imagine, vous la détenez. Moi, je parle d'injonction d'Isabelle Stengers. J'imagine que ce n'est pas une injonction, c'est une invitation, plutôt.
Oui, ça, je ne sais pas... Je n'étais pas dans le secret des discussions à propos de Toby Nathan. C'est vrai que Toby Nathan était a priori quelqu'un d'assez éloigné de Bruno Latour, qui s'intéressait peu à ces questions-là. Mais justement, quand il a passé un an quand même en ethnopsychiatrie à suivre les consultations. Et comme je veux dire, comme beaucoup de gens qui ont participé aux consultations du Centre Georges Devreux créé par Toby Nathan, il a été bouleversé. Ça a été mon cas aussi. J'ai été bouleversé d'assister à des consultations dans lesquelles on voit la force des propositions thérapeutiques qui sont issues des ethnopsychiatries et qui peuvent effectivement transformer des situations, des individus, des problématiques et des problèmes tout court. Donc Bruno était frappé par ça et c'est vrai qu'il avait besoin, ça c'est quelque chose qui parcourt un peu toute son œuvre, il a besoin de penser, disons, que les choses sont construites et qu'elles existent vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, arriver à ne plus accepter cette opposition entre construction et existe réellement. Cette idée que si c'est construit, ça n'existe pas vraiment réellement. C'est une construction. Or, Bruno, depuis le début, a cherché la manière de dire les choses. Par exemple, quand quelqu'un tape sur la table dans une conférence en s'opposant au soi-disant relativisme, un fait est un fait, point à la ligne, il ne se rend pas compte que le mot « fait » lui-même signifie « fabriquer ». Si c'est « fait », ça veut dire que c'est fabriqué, c'est synonyme quelque part, « fait » et « fabriqué ». Un fait, c'est jamais quelque chose qui s'impose de soi-même, tout seul, et moins que jamais dans le domaine des sciences. Ou pour pouvoir dire « tel virus est la cause de telle maladie », c'est un fait. Mais dans ce cas-là, il faut dire « voilà comment on a réussi à établir ce fait-là, voilà comment toutes les opérations qu'il a fallu remplir, réussir, tous les outils qu'il a fallu utiliser pour arriver à ce résultat, ce virus est la cause de cette maladie. » Ça ne s'impose pas de lui-même, il ne suffit pas de regarder les patients dans les yeux pour savoir que c'était un tel virus qui provoquait telle maladie. Donc un fait, on ne peut donc pas, et ça c'était au centre de la pensée de Latour, opposer d'un côté les faits et les constructions. Les faits sont des constructions, d'une certaine manière, bien faites. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises constructions. Les mauvaises constructions, c'est celles qui se diluent et qui ne peuvent pas être reproduites et qui disparaissent des préoccupations de l'ensemble des uns et des autres et des chercheurs. Quand une construction est bien faite, elle va résister. Ce mot de résistance, là aussi, est important. Et à partir du moment où elle résiste à toutes les épreuves qu'on lui fait subir, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un autre virus ? Qu'est-ce que si on modifie le virus, est-ce qu'on a toujours la même maladie ? C'est-à-dire, toutes les modifications. Non, le fait est établi parce qu'il résiste. Un fait, c'est quelque chose qui résiste à toutes les épreuves qu'on lui fait subir. Et plus la liste des épreuves est longue, plus le fait se durcit et devient réel. C'est pour ça que Latour va employer le mot de fétiche pour cesser d'opposer, d'une part, le fétiche classique, qui est de la construction absolue, qui relève entièrement de l'imagination, et le fait des scientifiques qui lui résisteraient. Non, les deux doivent être bien construits. Et aussi bien les fétiches de Toby Nathan que les faits des médecins ou des biologistes doivent être tous les deux bien construits. On ne fait pas n'importe quoi. Les modes de construction ne sont pas les mêmes, les épreuves qu'ils subissent ne sont pas les mêmes. Donc le mot fétiche va dans ce parcours de Latour anti-relativiste, j'ai presque envie de dire, anti-relativiste, qui date donc de cet épisode au trait qu'il raconte qui va lui permettre d'identifier le mode d'existence des sciences par rapport au mode de la reproduction, va être une étape dans son raisonnement, sachant que à la fin, il va aboutir à d'autres formules. Il y a un fétiche à un moment donné, il y a les bonnes constructions. C'est bien construit, les mauvaises constructions. Et puis à la fin, il va prendre ce terme de ce philosophe que vous avez évoqué, Sourio, dont le texte principal, des textes essentiels, a été republié avec une préface commune. Ce texte exceptionnel, qui est le texte écrit à quatre mains entre Latour et Stengers, il va reprendre le mot que proposait Sourio, qui est le mot d'instaurer. Instaurer. C'est-à-dire que là, on instaure quelque chose. Pareil, quand le mot d'instauration va être quelque part la formule la plus aboutie auquel Latour va aboutir dans cette longue recherche de la manière de bien dire ce qu'est un fait. La manière de bien dire ce qu'est un fait sans l'opposer au fait qu'il ne s'impose pas de lui-même, mais qu'il suppose une longue construction pour aboutir à ce qu'on puisse dire un jour, ce fait est bien solide, il est bien là, et c'est pas demain la veille qu'on va réussir à le mettre en cause. Et donc, c'est dans ce long travail comme ça, fétiche va être effectivement un moment qui va l'obliger à réfléchir, et c'est dans la rencontre avec le centre d'ethnopsychiatrie Georges Devreux et Toby Nathan qui va être amené à s'intéresser à ce que les aux fétiches et effectivement aux faits pour essayer de comprendre que ces deux ne s'opposaient pas, mais qui supposaient tous les deux d'être bien construits.
Merci beaucoup, Philippe Pignard.